soutenir l'économie après un plan de relance déjà approuvé par le Congrès de 1900 milliards de dollars. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, on remarquera que Morgan Stanley a dégradé son avis sur Total à pondération en ligne. Le groupe pétrolier perd ainsi 1%. C'était Rémi Demichelis, Investir pour RFI.
Et pour finir, merci Rémi Demichelis. Des nouvelles de la forêt tropicale. Le rapport d'une ONG montre que la surface de forêt vierge tropicale détruite l'an dernier est équivalente à la taille des Pays-Bas. Augmentation de 12% d'une année sur l'autre, et ce malgré la crise économique mondiale. C'est la fin du journal. Très bonne fin de journée sur RFI.
Milliards de voisins, l'école à la radio avec Emmanuel Bastide.
Radio G. www.radio-g.fr.
C'est FTC.
Non, aujourd'hui, les syndicats, ça sert plus à rien.
Ben si.
Ils ont négocié notre convention collective. Je gagne mieux ma vie.
Ils ont été avec moi quand je me suis cassé le bras pour le faire reconnaître en accident du travail.
Grâce à eux, j'ai des jours de congé pour m'occuper de ma mère handicapée.
Ah ouais?
Ah bah oui.
Ben si.
Ben si. On vous représente pour améliorer vos conditions de travail et pour que votre vie personnelle soit respectée. Du 22 mars au 6 avril, votez CFTC. CFTC avec un C comme constructif.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
À toutes et à tous, bienvenue dans l'émission L'Oreille Curieuse, le magazine des actualités locales et culturelles à 18h10 du lundi au jeudi. Aujourd'hui, c'est moi, Mehdi, qui anime l'émission car notre chère collègue Anne-Li n'est pas présente. Mais pour se consoler, ce soir et comme souvent d'ailleurs, nous avons pour vous du contenu de qualité et des chroniqueurs remarquables. Il y a bien sûr dans le studio Céleste. Bonjour Céleste.
Salut Mehdi.
Tu vas bien ?
Ça va et toi, tranquillement ?
Superbe. Ce soir, tu nous parles de cinéma avec la chronique qu'on attend tous les mercredis.
Évidemment.
Le guichet choral.
Comme d'habitude.
Et je te demande alors, quel est le thème de cette chronique ?
Ceux qui ont suivi la chronique de la semaine dernière savent déjà de quoi je veux parler. Sinon, vous verrez bien, la surprise sera la vôtre.
Et on retrouvera cette chronique en deuxième partie de l'émission.
Évidemment.
Nous avons aussi la chance de recevoir Pierre Hugo qui sera avec nous par téléphone pour le petit lexique du théâtre qu'on a l'habitude de retrouver toutes les deux semaines. En tout cas, les deux chroniques vont de pair, c'est génial. En première partie, on retrouvera Albert, alias Tonton Albert, pour une chronique sur un personnage emblématique français, le fameux Jean Bodin, natif d'Angers. Comme d'habitude, un petit proverbe, la familiarité engendre le mépris. Un proverbe intéressant auquel je peux répondre par un autre proverbe, la courtoisie engendre l'étrange. Et je vous laisse y réfléchir.
C'est beau.
Comme tous les jours, on ouvre en musique avec le titre Acide de Nerlove, un artiste local angevin.
Souvent il m'inquiète. J'ai
vous êtes bien dans l'oreille curieuse et on retrouve Albert, alias Tonton Albert, pour nous parler de Jean Bodin. Une chronique qui a été enregistrée il y a quelques jours avec Anne-Lie.
Et c'est un nouveau billet de mauvaise humeur. J'annonce tout de suite la couleur, mais des fois on a des surprises. C'est bien sûr avec Tonton Albert et c'est la bouteille aux trois quarts vide. Salut Albert.
Bonjour Anne-Lie. Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir d'un personnage illustre qui possède sa rue ici à Angers et tout de même un lycée au Pont-de-Cé. Au moment où d'aucuns scrutent d'un œil critique le parcours des grands hommes qui donnent généreusement leur nom aux rues de nos villes, il n'est sans doute pas inutile de s'arrêter sur nos célébrités locales. C'est ainsi que je me suis intéressé à la personnalité de Jean Bodin, natif d'Angers, qui possède sa rue, donc, près de la gare Saint-Lô, ce qui, les rares jours où je suis de bonne humeur, m'amène à chantonner « Tiens, voilà Jean Bodin, tsin, tsin, tsin ». Mais qui était Jean Bodin? La plaque apposée à l'entrée de sa rue annonce sobrement ses dates, 1530-1596, et que notre homme était écrivain politique. Soit. Comme de nombreuses figures de la Renaissance, le sieur Bodin est un peu un touche-à-tout. Avocat, philosophe, économiste, il a contribué à théoriser la notion de circulation de la monnaie et a apparemment étudié de près les divers impacts de l'inflation sur l'économie. Ses travaux ont, paraît-il, inspiré le très, 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 très libéral Milton Friedman, 4 siècles plus tard. Jean Bodin a même été député. Lors des États généraux de 1576, convoqués par le roi Henri III. Il s'y a du reste illustré en faisant preuve de tolérance à l'égard des protestants qui n'étaient point alors en odeur de sainteté. Ça, c'est le côté Bodin blanc du personnage. Nous allons voir cependant que sur le plan politique, notre VIP angevin se montre un tantinet versatile, toujours prompt à se trouver là où l'on sert la soupe. Son époque qui patauge dans les guerres de religion est trouble. Cela ne rend pas ses choix très limpides. C'est ainsi qu'il prend successivement le parti du roi de France, Henri III, puis celui de la Ligue. Vous savez, ces ultra-catholiques dont le comportement précisément n'est pas toujours très catholique. Et il finira par se rallier à la cause de Henri IV, le nouveau roi de France. En somme, notre Bodin me fait songer à la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Cette aptitude à faire le grand écart, Jean Bodin l'acquiert peut-être aussi grâce à son mariage. Épouser une fille et sœur de magistrats influents, ça peut aider dans la vie. Détail amusant, la dame se nomme Trouillard. Voilà qui n'incitera guère notre angevin, désormais installé en Picardie, à faire montre de courage politique. En tout cas, c'est en Picardie que notre homme donne libre cours à son versant Bodin noir. Car il est au moins un registre dans lequel Jean Bodin ne manquera pas de courage, c'est dans sa tâche de procureur du roi dans la ville de Laon. Il mettra même un zèle tout particulier à traquer les sorcières qui, dans cette seconde moitié du XVIe siècle, menacent ni plus ni moins la stabilité du royaume par le biais de leurs sortilèges et de leurs sabbats. En tout cas, notre érudit made in Angers en est convaincu. Cet esprit, présenté comme brillant, croit dur comme fer aux loups-garous et autres jeteurs de sorts qui ne font rien qu'à créer des épidémies et anéantir les récoltes à coups d'intempéries. Je n'ose imaginer ce qu'aurait pensé ce fin lettré de la pandémie du moment.
Faire des tisanes, c'est très dangereux pour l'ordre établi.
Je crois. Très inspiré par toutes ces fariboles, Bodin rédige un ouvrage de référence, De la démonomanie des sorciers. Un véritable best-seller réédité à maintes reprises, dans lequel il donne de bons tuyaux pour prouver que telle personne est une sorcière. Voyez plutôt ce que notre Bodin préconise pour une perquisition au domicile d'une suspecte. Dans le logis, rechercher les crapauds habillés de livrée, ou dans des pots, des os d'enfants, ou des graisses et poudres puantes, et autres choses semblables dont les sorcières sont ordinairement pourvues. On sent le gars bien renseigné. Il donne aussi ses trucs de cuistot, ses petits secrets, comme les pointes de fer enfoncées sous les ongles, pour faire avouer une pauvresse rendue folle par la torture. Pardon, on parle de questions. Donc Bona connaît la réponse, le bûcher. Oui, Bodin, comme Landru bien après lui, a une conception très personnelle de la femme au foyer. Pourtant, ancien avocat, Bodin ne se soucie guère des droits de la défense. Il estime que les ragots et la délation qu'il plébiscite constituent des éléments dignes de foi pour arrêter quelqu'un. Il trouve normal que les juges mentent à l'accusé et estime qu'il n'ait guère besoin de plusieurs témoins. Un témoin sans reproche de sexe masculin étant suffisant. Oui, notre Bodin est un partisan acharné de l'égalité des sexes. Pas mal, non ? Pour un soi-disant intellectuel. Vous qui êtes lycéen, lycéenne, dans un établissement qui porte le nom de ce monsieur qui savait parler aux femmes, ça ne vous laisse pas une impression bizarre ? C'est sûr, notre homme n'était point négrier. Mais avoir condamné à mort des malheureuses qui étaient aussi sorcières que moi je suis archevêque, ce n'est pas plus glorieux. J'ignore si la personne qui a eu l'idée géniale de baptiser un lycée du nom de cet échappé de bocal possédait bien ses fiches à jour. L'on m'objectera que c'était l'époque qui était seule responsable de telles dérives. Voire, comment expliquer dans ce cas qu'un Montaigne, pourtant contemporain de Bodin, n'est pas lui aussi présenté de semblables délires. Mieux, Montaigne a introduit de la complexité autour de la représentation que son époque se faisait des sauvages, ces peuples dits primitifs que l'Europe découvrait alors. Ce que l'on peut en conclure, à travers l'exemple de Jean Bodin, c'est que les pires crapules s'y entendent pour tirer les marrons du feu et accéder à la postérité. Pour ces gens-là, ce n'est jamais bien sorcier d'avoir pignon ou pognon sur eux. Et enfin, ce n'est pas parce que l'on est un enfant du pays que l'on est nécessairement quelqu'un de recommandable.
Mais quel déboulonneur tu fais, Albert.
Oh ben, je crois qu'il le méritait un petit peu quand même. Hein.
Mais on a bien gardé son nom pour une raison, pas pour le libéralisme.
Je ne sais pas trop. Moi, j'ai peur.
Je fais l'avocat de la défense.
Ouais. Moi, j'ai peur que la raison première pour que M. Bodin ait sa rue et un lycée, c'est qu'il soit un natif du coin. Et c'est assez pitoyable dans ce cas-là.
En tout cas, ça n'est pas suffisant. Même si on a tous nos parts, ombre, lumière,
Je crois. Okay.
Merci beaucoup, Albert.
De rien, Lee.
Un local pas si recommandable. En tout cas, merci beaucoup Albert pour cette chronique sur Jean Bodin. On peut retrouver le texte de ta chronique sur ton site web, le Saltin Book. Tous les liens seront disponibles sur le podcast. Allez, on enchaîne avec Pierre Hugo et son superbe lexique théâtral endiablé.
Ouais, salut à vous et salut à ceux qui nous écoutent. Content d'être là ce soir, même si c'est encore une fois dans des conditions un peu spéciales, je suis au téléphone. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on s'adapte. Bon, alors ça fait un moment, moi, que j'ai pas eu l'occasion de venir vous faire mes causeries théâtrales dans l'émission. Et franchement, ben, vous savez quoi, je suis content d'être là. Et je vais pas perdre la main. Hein. On reprend le lexique, en effet, parce que c'est bien joli, mais bon, on a du pain sur la planche. Alors, hier, vous le savez peut-être, on faisait cette émission au Théâtre du Quai. Et vous le savez peut-être également, le Quai, comme des centaines d'autres théâtres en France, est aujourd'hui occupé. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Hein. L'émission d'hier s'y consacre suffisamment et en parle mieux que je ne le ferai maintenant. Cependant, lors de ma déambulation dans ce grand forum, dans cet immense lieu qui fait le hall du Quai, une hauteur incroyable, un volume formidable et lumineux, ouvert sur le monde et l'extérieur, on regarde et on est vu. Eh bien, je me suis fait cette réflexion simple que l'on a tous eu une fois au sujet d'un lieu. Quel espace magnifique. Et alors, c'est tout naturellement que m'est venu le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, l'espace. Et alors, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est peut-être là qu'est le cœur du théâtre, même là qu'est probablement le cœur de tout art qui se fait sur une scène, sur un plateau. Avant le texte, avant le jeu, avant la chorégraphie ou la musique, l'espace. Alors, je ne vais pas vous mentir, devant l'immensité de la tâche que je viens de m'octroyer en vous parlant de ça, eh bien moi je défaille un peu. Voilà. Ça me fait souvent ça, quand je pense à l'espace, je défaille un peu. Et c'est amusant comme ce mot, l'espace, donne le vertige pour un artiste comme pour un cosmonaute. L'espace. Alors évidemment, ça nous évoque l'univers, les étoiles, les définitions. Espace, nom masculin, étendue indéfinie comprenant tous les objets, étendue où se trouvent les astres. Allez, on enfile nos scaphandres de cosmonautes et on se lance. C'est quoi l'espace ? Vous êtes là, debout sur les planches, devant vous le noir de la salle. Un léger bruissement, une lente respiration, celle du public, là, dans l'obscurité, et partout autour de vous, du vide. Blaise Pascal disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Une seule mission, remplir ce vide, occuper cet espace, lui donner vie, transformer ce pas connu en un champ de bataille, une terrasse de café, un cimetière, un balcon. Alors attention, hein. Je ne vous parle pas ici de décors, de costumes ou d'accessoires. Non, l'appréhension de l'espace pour le comédien, c'est primordial et c'est souvent abstrait. Mais c'est là qu'est le corps de notre travail. Créer de l'invisible, mentir et inventer, y croire si fort, avec tant de conviction et d'obstination, sans le moindre doute, avec une certitude telle que eux là. Vous savez, ceux dans le noir, ceux qui sont venus ce jour-là, eh bien eux, ils y croiront aussi de toute leur force. Alors on se met au travail, on invente. On part de rien, d'une pièce au mieux, et on crée un espace. On en invente les règles, le fonctionnement, on crée des entrées, des sorties, on crée ce qui se passe une fois la coulisse atteinte, car oui, si l'acteur est hors de scène, le rôle, il continue d'exister quelque part, et il faut inventer ce quelque part qui n'est pas visible. Quelle est la place du public? Où s'arrête la scène? Jusqu'où va le regard? Jusqu'où va la voix? Donner la place aux personnages qui existent pour les rôles, mais qui ne sont pas sur scène. La foule, les dieux, les éléments, comment le vent souffle, comment la pluie mouille et le soleil brille et chauffe. Quelles sont les sensations? Alors, ouais, je sais, tout ça, c'est un peu abstrait, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est important. Alors, la suite viendra, elle sera beaucoup plus technique, théorique, ce sera plus clair, ce sera ludique aussi, c'est promis. Mais aujourd'hui, je voulais faire une intro, un petit peu de teasing, car c'est primordial. Inventer un espace. Et je vais vous faire un aveu. Nous le faisons tous, quotidiennement, et pour la plupart, sans s'en rendre compte. Alors, je vous retrouve la prochaine fois, et promis, on va se comprendre, promis, on va éclaircir les choses. Et d'ici là, portez-vous bien.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Hugo. C'était très beau.
Merci à vous. De m'avoir offert ce temps-là. J'espère pouvoir développer plus longuement la prochaine fois. Et voilà.
Et puis aussi, merci d'avoir été là malgré le contexte.
Mmh. Ouais, bah, avec plaisir. Grand plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Mais bonne émission, bonne continuité.
Merci, on se retrouve dans deux semaines.
À la prochaine.
Vous êtes toujours dans l'émission L'Oreille Curieuse et on enchaîne avec une pause musicale avec le titre Started Out de Georgia.
down, kick down the heartache. 'Cause when we started, we are wicked young fools who behave now, back in the arms of somebody who saved us. We are wicked young fools who behave now, back in the arms of somebody who saved us. We are wicked young fools who behave now, back in the arms of somebody who saved us. We are wicked and bold. We are wicked and bold. We are wicked.
Bien sur le 101.5 FM sur Radio G, à l'écoute de l'oreille curieuse. Et voici maintenant le guichet choral, la chronique cinéma.
Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé de monstres. Il faut sur mon script, c'est pas grave. De monstres aliens, de monstres géants, de monstres invisibles, de monstres horribles. Je vous avais aussi parlé de films d'horreur, de films catastrophes, de found footage. Mais en même temps, je parle beaucoup de films, c'est le principe de la chronique. Et, souvenez-vous, il me restait un film à vous présenter. Un film que je porte beaucoup dans mon cœur, puisqu'il est réalisé par un créateur que j'aime beaucoup, Guillermo del Toro. Je l'aime bien parce qu'il a toujours une certaine poésie, une certaine malice, et une bonne grosse dose de références culturelles subtiles qu'il met dans ses films, comme dans celui qui va ouvrir cette chronique. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui on va continuer de parler de monstres, avec Le Labyrinthe de Pan, sorti en 2006 et réalisé par Guillermo del Toro. Alors, tout d'abord, on va clarifier une chose. Le Labyrinthe de Pan n'a rien à voir avec Peter Pan, ni le dieu de la mythologie grecque Pan. C'est en fait une erreur de traduction. Le titre original est, selon mon accent espagnol approximatif de lycée, El Laberinto del Fauno, littéralement le labyrinthe du faune. Le faune est une créature mythologique romaine à corps humain et à sabots de chèvre. Son équivalent grec est le satyre. Et il se trouve que le dieu Pan est un faune, ou un satyre, suivant la mythologie que vous préférez, d'où la traduction approximative du titre qui se retrouve également aux États-Unis, enfin dans la version anglaise. Et je préfère aussi préciser d'emblée que ce n'est pas un film pour enfants, loin de là. Lors de sa sortie, il a d'ailleurs été interdit aux moins de 12 ans en France et a écopé d'un rated R aux USA, ce qui veut dire que les personnes de moins de 17 ans devaient être accompagnées d'un ou d'une adulte. Et c'est un peu parce que le langage y est parfois cru, mais surtout pour la violence graphique, que ce soit les scènes de torture des rebelles par le capitaine ou certaines créatures peu amicales. D'ailleurs, cela a posé problème à Del Toro, puisque personne ne voulait produire un film fantastique et féerique qui serait brutal et violent, qui serait donc pas très tout public. Mais que raconte le film, du coup ? Eh bien, Le Labyrinthe de Pan nous narre l'histoire d'Ophélia, une jeune fille espagnole qui va vivre avec le mari de sa mère, un capitaine franquiste du nom de Vidal, en prise avec des maquisards, qui sont donc un groupe de résistants vivant dans une forêt, opposant au régime et cachés donc dans la forêt qui borde le domaine du capitaine. Les événements se déroulent en 1944, donc pendant les 40 ans de règne de terreur du dictateur espagnol Franco. Sauf qu'Ophélia n'est pas une fille comme les autres. Elle est la réincarnation d'une princesse d'un royaume enchanté dont elle s'est échappée car elle voulait voir le monde des humains. Et pour retourner dans ce royaume, elle va devoir réussir 3 épreuves, la faisant rencontrer des créatures fantastiques. L'histoire va donc suivre 2 scénarios qui vont s'entrecroiser, celle de la quête d'Ophélia et celle du capitaine s'opposant aux résistants. Les deux vont sembler différentes, mais ont certains points en commun, notamment la rencontre avec le Pale Man, un ogre extrêmement flippant dont le visage laiteux est dépourvu d'yeux, ceci se situant dans la paume de ses mains, scène qui fait miroir avec celle du dîner du capitaine Vidal. Del Toro n'en est pas à son coup d'essai d'afficher des créatures fantastiques à l'écran, et ce ne sera pas la seule fois qu'il le fera, puisqu'il a réalisé 2 ans plus tôt le film Hellboy, adapté du comics du même nom, dont le héros principal est un enfant des enfers. Il sait donc mettre en image des personnages étranges, comme récemment avec son film La Forme de l'eau. Dans le labyrinthe de Pan, à propos de mettre en image des créatures étranges, on a la scène d'exposition du Pale Man. Imaginez, fermez les yeux, il est assis sur une chaise en bout de table. Une grande table en bois. Dans son dos, une cheminée. Devant lui, un très grand nombre de plats et de victuailles alléchantes, ainsi qu'une soucoupe entre ses mains, contenant 2 globes oculaires aux pupilles rouges. La pièce est octogonale. Chaque coin est marqué par des piliers en marbre. Au plafond, entre chaque pilier, il y a des fresques représentant le Pale Man, s'adonnant à des activités horribles comme poignarder ou dévorer des enfants. Dans un coin de la pièce, près d'un pilier, il y a d'ailleurs une montagne de chaussures d'enfants. Enfin, contre un mur, il y a 3 serrures, dont l'une contenant un objet utile pour la quête d'Ophélia. Celle-ci doit récupérer l'objet sans toucher à la nourriture. C'est le but de sa tâche. Lorsque la jeune fille arrive dans la pièce, le réalisateur nous montre la table, puis s'approche du monstre qui était en arrière-plan et qui du coup se rapproche, devenant le centre de notre attention. Et s'apparente alors davantage à une statue puisqu'il est immobile. Le réalisateur met en place la situation. On sait que quelque chose est dérangeant, mais pas quoi. Et on voit bien sûr le parallèle entre la table du Pale Man et celle de Vidal, avec des victuailles remplies de la table, ça ne veut rien dire, où les 2 monstres sont en bout de table, donc Vidal et le Pale Man, réunissant alors le fantastique et le réel. Je ne vous en dis pas plus sur la scène pour que vous voyez le reste, parce qu'elle est très saisissante et mérite d'être vue, ou que quelqu'un vous la raconte mieux que moi. Mais c'est comme ça que Del Toro construit ses créatures, en les installant dans un environnement stylisé, comme une sorte d'antre, et en nous laissant découvrir peu à peu la créature ainsi que le monde qui l'entoure. Il fait la même chose lors de la découverte du faune par la jeune fille, en le plaçant au centre de son labyrinthe. Ce qui est intéressant avec les monstres dans le fantastique, c'est qu'ils font partie d'un univers. Là où les aliens viennent d'une autre planète, et donc développer leur origine ou leur environnement n'est pas forcément très utile, par exemple dans le film Alien, on s'en fiche un peu d'où vient le xénomorphe, tout ce qu'on sait c'est qu'il va dévorer absolument tout l'équipage. Les bêtes issues du fantastique ont toute une mythologie et un environnement les entourant. Par exemple, le Pale Man et toute sa pièce décorée de façon macabre, ou le faune possédant son labyrinthe dans lequel il s'intègre parfaitement. D'ailleurs, le faune a même des sortes de feuilles ou de branchages sur son corps. Prenons une autre installation intéressante du monstre fantastique, celle du Détraqueur dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, réalisé par Alfonso Cuarón. Et c'est pas parce que l'autrice est une transphobe de haut niveau que les films ne sont pas intéressants. Petit, puisque Cuarón a produit le labyrinthe de Pan, et Guillermo del Toro avait d'ailleurs, on a d'ailleurs proposé à Guillermo del Toro de réaliser Harry Potter 3, mais il a préféré faire Hellboy. Dans le 3e volet de la saga du Petit Sorcier sont introduits les Détraqueurs, des gardiens de la prison des sorciers, donc Azkaban. Ce sont de grandes silhouettes, noires, encapuchonnées, avec des mains cadavériques et un souffle glacial aspirant toute joie de vivre. Ce sont des êtres qui se nourrissent des bons souvenirs, ne laissant que la peur, le froid et la tristesse sur leur passage. 2 êtres charmants donc. La première apparition de ces créatures se déroule dans le train, menant les jeunes sorciers à leur école. La scène se déroule ainsi. Petite ambiance. Le train s'arrête soudainement, laissant les passagers circonspects. Ils se demandent tous ce qu'il se passe. Soudainement, l'air se rafraîchit, à tel point que les fenêtres se couvrent de givre et l'eau se glace instantanément. La nervosité se fait sentir au sein du groupe d'élèves. Nervosité qui se change en angoisse lorsque le wagon tremble. Une personne vient de monter à bord. Une silhouette fantomatique s'approche de la porte du wagon. Lentement, elle s'ouvre, dévoilant la main putréfiée de la créature. Le détraqueur apparaît dans le cadre de la porte du wagon en contre-plongée, menaçant. Il tourne sa tête, vraisemblablement pour scanner visuellement la pièce, jusqu'à s'arrêter sur Harry. La créature se met brusquement à aspirer l'essence du jeune homme, lentement. Cela dure quelques instants, suffisamment pour qu'il perde conscience, alors que quelqu'un vient à sa rescousse. Alfonso Cuarón, qui a aussi réalisé Gravity et Les Fils de l'Homme, signe ici une scène pleine de tension et visuellement intéressante, soulignée par la formidable musique de John Williams. Toute cette montée progressive de l'angoisse est vraiment digne d'un film d'horreur, jusqu'à la découverte de la créature qui, pour l'anecdote, était inconnue des spectateurs jusqu'à la découverte en salle. En effet, dans les bandes-annonces, à part la main squelettique, il n'y avait aucune apparition des détraqueurs. Donc ça augmente ainsi la surprise pour les personnages du film et pour les spectateurs. Et moi, j'aime bien les créatures, j'aime voir l'imagination d'un réalisateur, d'une réalisatrice, d'un auteur ou d'une autrice s'exprimer autour d'un monstre ne portant pas ou peu de caractéristiques humaines. J'aime les voir évoluer dans un environnement qui leur est soit propre, soit totalement humain. Et je vais faire un petit aparté sur le fantastique et la fantasy puisque c'est le prolongement de cette chronique. Le fantastique est à la base un genre littéraire où se côtoient des éléments vraisemblables et d'autres un peu plus surnaturels. Par exemple, le Horla de Maupassant, avec son esprit frappeur qui n'existe peut-être que dans la tête du personnage principal. Je vous conseille d'ailleurs de le lire parce qu'il est vraiment incroyable. La fantaisie est là aussi un genre littéraire, mais celle-ci c'est dans laquelle l'action se déroule dans un monde imaginaire, peuplé de créatures surnaturelles ou mythiques. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, dont vous avez reconnu la musique. Les deux genres s'opposent et quelque part se complètent. Les deux sont intéressants puisqu'ils nous permettent d'admirer l'imagination d'un auteur ou d'une autrice. Et cette imagination est, je trouve, sublimée par la création d'une créature imaginaire ou incroyable. Et incroyable. Parfois, des monstres au design torturé, parfois de sublimes entités qui cachent une hideuse forme, ou tout simplement de gentils faunes qui aident le ou la protagoniste. Les monstres sont très souvent des métaphores. Un moyen pour l'auteur ou l'autrice de singer la réalité en personnifiant des idées ou des monstres réels. À l'image, je vous rappelle, du Pale Man, qui est une sorte d'incarnation monstrueuse de l'âme du capitaine Vidal. Des fois, c'est là juste pour faire passer une morale. Et parfois, ils sont juste là pour représenter une menace. Un moyen pour les personnages de surpasser leur peur. Par exemple, dans le film ou le livre, ça. Ce sont donc des obstacles destinés à développer les caractères des personnages. Et parfois, ça n'a aucune utilité. C'est juste voir des créatures fantastiques évoluer sous nos yeux, ça nous apporte une certaine joie. À l'image du film Godzilla vs King Kong, où la seule utilité est de voir deux monstres de cinéma se foutre sur la gueule. Et moi, franchement, je trouve ça drôle. C'est ainsi que s'achève le diptyque de chronique sur les monstres au cinéma. J'ai trouvé ça amusant à faire, d'autant plus que ça m'a donné l'occasion de revoir Le Labyrinthe de Pan, un film que j'avais adoré au premier visionnage il y a environ 5 ans, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à m'y replonger. Aujourd'hui, il fait partie de mes films préférés puisqu'il allie des faits historiques et du fantastique et je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les films qui font ça. Donc évidemment, je vous conseille Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Je vous rappelle tout de même qu'il n'est pas recommandé à tout le monde. Il contient pas mal de violences graphiques et de séquences cauchemardesques. Moi-même, à 15 ans, j'avais très peur du Pale Man. Mais ça reste l'un des chefs-d'œuvre du réalisateur avec La Forme de l'eau. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Trêve de bavardage, comme on a un peu de temps, je vous laisse avec It's Been So Long de The Living Tombstones, une chanson qui parle évidemment de monstres, ceux du jeu Five Nights at Freddy's. D'ici là, voyez des films, amusez-vous avec les monstres, portez-vous bien, salut!
Mistakes, but the future keeps leering in like a pack of snakes. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Justification is killing me. The killing isn't justified. What happened to my soul?
Merci Céleste.
Mais de rien.
On retrouve ta chronique en podcast sur radio-g.fr, rubrique podcast plus.
Et aussi sur Spotify.
Et oui, sur Spotify depuis quelques temps.
Yes.
L'oreille curieuse, c'est terminé. On avait trois belles chroniques au programme. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement.
Et oui.
Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radio-g.fr, rubrique émission. Demain, dans l'oreille curieuse, Anne-Lie recevra un invité pour vous parler d'un projet envisagé dans le cadre de la transition écologique. La réouverture des mines de Trélazé pour en extraire des terres rares locales et biosourcées. Le projet Trélazé Rare Earth est porté par la start-up Techology et vous pouvez la découvrir dès maintenant sur écrivon.angers.fr. Et sinon, rendez-vous demain à 18h10 sur Radio G. On vous souhaite tous une bonne soirée.
Radio G 101.5 FM. It took me by surprise, I must say. I heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. Don't I know that I heard it through the grapevine.
was I had fun, all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw a preference, 'cause I know mine, and it's you. Foolish of me to say these things, but I want to. I know it's all in you. Don't need a reason when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Band Geek Mafia. Band Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Alors attention, une émission spéciale ce soir, une émission cinéma. Alors on a avec nous Monsieur Cinéma, Antonio, salut.
Salut.
Non mais